Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui Emmanuel Sebolt sur le thème « Il n'y a plus ni homme ni femme, mais elles doivent se taire dans les assemblées ». Bonjour Emmanuel.
Bonjour Yolande.
On va vous présenter. Vous êtes la première femme en France à avoir eu le poste de responsable d'une église nationale. J'allais dire chef, mais ce n'est pas très protestant. Alors, responsable, je suppose que c'est mieux. Toute la presse a parlé de vous, toute la presse nationale, et je dois le dire, vous nous avez rendu très fiers. Alors, pour cela, tout d'abord, merci. Et puis, vous avez écrit ce livre « Des femmes et des dieux » avec deux amis, Kaina Baloul, qui est imam, et une rabbin, Floriane Chinsky. Alors, j'ai choisi pour cette émission un titre accrocheur en utilisant Paul, et vous avez horreur de ça. Vous allez nous dire, hein, vous allez préciser qu'on a détourné les propos de Paul, qui est moins misogyne qu'on veut le dire. Alors, première question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de Paul et de son rapport aux femmes? On va laisser tomber, si vous voulez bien, Corinthe pour le moment. On y reviendra après, mais en dehors de Corinthe, comment était Paul avec les femmes?
Bonjour Yolande. Alors, c'est une vaste question et peut-être qu'il faudrait la poser à des néo-testamentaires aguerris. Mais ce qu'on peut voir dans l'ensemble des lettres de Paul, c'est d'abord que Paul est hébergé, accueilli chez des femmes qui vont devenir des responsables de communautés chrétiennes. Qui vont demander le baptême pour elles et pour leur famille, que dans les salutations à la fin des lettres de Paul, il salue aussi bien des hommes que des femmes. Voilà, donc moi, je n'ai pas rencontré Paul personnellement, donc je ne sais pas exactement quelle était sa relation avec les femmes, mais ce que je peux dire, c'est que ce qui transparaît dans ces lettres, c'est quelque chose de beaucoup plus à la fois équilibré et sans doute complexe, qu'on veut bien le dire à partir de quelques versets qu'on tire comme ça. Donc, sans doute, Paul a été soutenu par des femmes, mais comme Jésus, dans son ministère, et il a annoncé l'évangile à des hommes et à des femmes, je dirais, indifféremment.
Et alors, quand il saluait ces femmes, Paul, dans ses épîtres, qu'est-ce qu'on sait de ces femmes? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles le recevaient, mais qu'est-ce qu'elles faisaient dans le culte, enfin, dans l'annonce de l'Évangile?
Alors, qu'est-ce qu'elles faisaient d'abord? Bon, on sait que cette fameuse Lydie était marchande de pourpre, donc il y en avait qui faisaient du commerce, donc elles étaient responsables d'une entreprise, tout simplement. C'était pas forcément, ça devait être une femme assez exceptionnelle à son époque. Mais bon, au sein de la communauté chrétienne, et là on peut en revenir à Corinthe, eh bien il y avait sans doute différentes manières d'être église à l'époque. Il n'y avait pas un modèle obligatoire, et sans doute les Corinthiens étaient église autrement que les Romains, autrement que les Éphésiens. À l'époque, il n'y avait pas de manière instituée et rigide de vivre en communauté chrétienne. Et donc la question qui se pose à Paul à Corinthe.
On va revenir à Corinthe après, mais oui. Je voudrais qu'on précise qu'est-ce qu'elles font dans le culte, qu'est-ce que dans l'assemblée, quand il les salue, qu'est-ce qu'il dit d'elles, qu'est-ce qu'elles font, elles prophétisent, elles prient, elles
Alors, c'est bien là la question, finalement. Qu'est-ce qu'on sait à travers les lettres de Paul? On ne sait que des choses très fragmentaires, qu'on est obligé de reconstituer. Et donc, c'est difficile de dire les femmes font ça, parce que sans doute à Rome, elles ne faisaient pas la même chose qu'à Corinthe, et sans doute qu'à Jérusalem, elles faisaient encore différemment. Et que l'on en a dans les textes du Nouveau Testament, c'est quand même très fragmentaire. Voilà, donc moi j'avance sur la pointe des pieds sur ce sujet, mais sans doute elles parlent, oui, elles prophétisent, oui, elles annoncent l'Évangile, oui, enfin voilà, elles font partie de la communauté comme les hommes, et sans doute à ce moment-là elles ont une place égale aux hommes, ce qui va poser problème parce que la société de l'époque n'est pas dans cette ne donne pas cette place-là aux femmes.
Alors c'est peut-être pour ça que de temps en temps il fait un peu marche arrière, parce que quand on regarde 1 Timothée 2 9 à 14, alors bon, je vais pas tout lire, mais enfin bon, il faut que les femmes, je ne permets pas à la femme d'enseigner, car Adam a été formé le premier et c'est la femme qui, séduite, évidemment, s'est rendue coupable de transgression. Donc, il y a toujours cette idée de la femme tentatrice, notamment dans le bassin méditerranéen, enfin peut-être ailleurs aussi, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez retrouvé ça avec vos amis, cette idée de femme tentatrice qui revient quand même de temps en temps?
Oui. Alors c'est étonnant parce que finalement on a construit beaucoup de choses sur le récit de la Genèse. Beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas dans les autres textes bibliques, effectivement, à part quelques échos là. Et donc, on pourrait se lancer dans des lectures de la Genèse qui seraient bien différentes de celles que l'auteur de la lettre à Timothée indique ici. Mais c'est vrai que ce fardeau, je dirais, très pratique que l'on pose sur les épaules de la femme, en essentialisant la femme, c'est quelque chose qui permet à l'homme, entre guillemets, ou aux hommes, de poursuivre des schémas patriarcaux, des schémas qui enferment les femmes et qui les empêchent d'être ce qu'elles veulent être, tout simplement. Et effectivement, cette vision-là, et peut être nourri par une théologie qui vient alimenter, qui vient renforcer ces préjugés. Pour ne pas aller à Corinthe, mais regarder un tout petit peu le livre.
Ben, si, on va y arriver à Corinthe, justement. C'est le moment. Bon, donc, oui, je retiens dans ce que vous dites que ces versets, ils servent d'alibi aux hommes qui ont envie d'avoir des attitudes patriarcales et donc de se servir de ces versets. Alors, on peut arriver à Corinthe, puisque vous reliez la situation de l'Église de Corinthe à, justement, cette lettre. Alors, vous pouvez nous décrire ce qui se passe à Corinthe à ce moment-là, au moment où Paul écrit cette fameuse lettre?
Oui, alors, ce qui se passe à Corinthe, qu'on découvre en lisant la lettre, c'est une très, très grande liberté au cours du culte. Une très grande liberté, on dirait aujourd'hui pentecôtiste. L'esprit souffle et donc chacun prend la parole quand il reçoit quelque chose qu'il estime devoir être partagé avec les frères et sœurs dans la communauté. Et donc, les uns prennent la parole pour dire qu'ils ont reçu une prophétie, d'autres prennent la parole pour parler en langue, d'autres encore vont prier à voix haute. Et ça devait faire un joyeux bazar, tout ça. Et en fait, Paul va s'ingénier à leur dire, à dire aux Corinthiens de se taire. Pas seulement aux femmes, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a gardé que le verset qui dit aux femmes de se taire dans les assemblées. Mais en fait, dans ce chapitre-là, Paul demande à tout le monde de se taire, et pas seulement aux femmes. C'est pour ça que je dis que c'est des versets alibi quand on les garde comme ça, comme dans Lévitique, on va garder, par exemple, que les femmes ne doivent pas porter des pantalons, ou bon, je ne sais quoi, mais en fait, on ne voit pas tous les autres interdits qui concernent les hommes et qu'on a soigneusement oubliés. Bon, je ferme la parenthèse du Lévitique. Donc, Corinthe, il se passe que dans la grande liberté des enfants de Dieu, de l'Évangile, de l'Esprit reçu, eh bien, chacun parle à tort et à travers. Et donc, Paul dit si personne n'est là pour interpréter les prophéties ou le parler en langue, il vaut mieux se taire. Alors, on se demande, mais pourquoi faut-il se taire? Et en fait, quand on relit bien la lettre, on se rend compte que Paul a à cœur, évidemment, que l'Évangile soit annoncé, et surtout que des personnes qui rentreraient pour la première fois dans un culte chrétien à Corinthe ne partent pas en courant en se disant qu'il est tombé dans une maison de fous. Et donc, pour que des gens qui ne connaissent rien à l'Évangile puissent recevoir quelque chose de l'Évangile, il ne faut pas qu'ils soient effrayés en rentrant dans une communauté chrétienne. Il faut qu'ils aient des éléments, d'abord pour comprendre ce qui est dit, et qu'ils ne soient pas complètement choqués par les mœurs chrétiennes. Et ces mœurs-là, c'était notamment que les hommes et les femmes parlaient à égalité, ce qui n'était pas du tout le cas dans la société de Corinthe. Et donc, pour qu'un Corinthien puisse recevoir l'Évangile, il est préférable, dit Paul, que les femmes soient un petit peu plus discrètes, non pas que l'Évangile leur demande de se taire, mais que la société de Corinthe leur demande de se taire, et voilà. Et donc, ça ne veut pas dire que l'Évangile doit se cantonner à ce que la société demande, mais pour que l'Évangile soit annoncé, il faut que les personnes progressivement comprennent ce que c'est que la liberté chrétienne. Et si elles y sont si on leur assène tout à coup que tout le monde parle et tout le monde est inspiré par l'esprit, etc., les personnes nouvelles ne risquent pas de recevoir quoi que ce soit.
Ben c'est donc ce que dira plus tard Zwingli en disant qu'il faut faire de la pédagogie avant de renverser les statuts, avant de changer les choses. Il faut expliquer, il ne faut pas choquer d'emblée. Voilà. Et alors, cette interprétation-là sur Corinthe, c'est établi depuis longtemps dans les études ou c'est relativement récent cette façon de voir
Alors, je pense que ces lectures-là attentives au texte ne sont pas forcément que récentes, mais bien sûr, je dirais que les lectures féministes, c'est-à-dire qui interrogent ces textes-là en particulier pour essayer de les comprendre, oui, récentes, 20 ans, 30 ans, enfin, je ne sais pas si c'est récent, mais…
Oui, ben c'est toujours pareil, il faut donner plutôt des dates que que récents, ce qui ne veut rien dire… Ce qui ne veut rien dire. Alors, on va faire une pause musicale. Alors, vous pouvez nous dire ce que vous avez choisi comme morceau et pourquoi ?
Alors, j'ai choisi une chanson ukrainienne qui s'appelle Potichok, qui signifie petit ruisseau. Et en fait, cette chanson ukrainienne est chantée par une jeune chanteuse ukrainienne qui est en France depuis 2020. Et autour d'elle, un groupe de jazz qui a repris des chansons traditionnelles ukrainiennes. Et voilà, ce groupe les a mises à la mode jazz et c'est très émouvant.
Alors, on écoute ce morceau de jazz avec une chanson ukrainienne.
Вино чок, та й за водою.
Alors, on se retrouve pour évoquer la situation des femmes. On a vu Corinthe, on a vu ailleurs, donc à l'époque de Paul, de l'apôtre Paul. Et puis, on va voir rapidement dans l'histoire d'Israël. Rapidement, parce que il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose quand même. On connaît tous, enfin dans le protestantisme et dans le judaïsme, Déborah. Déborah, qui est une drôle d'histoire, puisqu'elle est juge et prophétesse. Et elle annonce que c'est une autre femme qui va donner la victoire au peuple d'Israël. Mais ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai trouvé amusant, c'est que le chef de guerre de Déborah, qui est un homme, Barak, il s'abrite complètement derrière elle. Il lui dit, si tu y vas, je viens, mais si tu y vas pas, j'y vais pas. C'est pas très viril, ça, comme attitude.
Non, mais c'est justement intéressant. C'est justement intéressant de voir que, comment dire, la parole de Dieu peut parler par n'importe qui, par les hommes et les femmes, et que de tout temps, des femmes ont été inspirées, que de tout temps, des femmes ont été remplies de l'Esprit Saint, hein, et que elles ont reçu quelque chose à partager. Ça me fait penser à l'histoire de ce chef militaire aussi qui est malade et dans ses razzias, il a emmené comme prisonnière une petite juive et qui lui dit, mais moi, mon Dieu peut te guérir de ta lèpre. Va voir le prophète Élie. Enfin voilà, et donc la parole, une parole de foi peut venir par des enfants, par des femmes, par des hommes, par des vieillards. Voilà, et ça, c'est, on le voit à travers toutes les écritures. Je pourrais dire que c'est un peu rassemblé dans la généalogie de Jésus au début de l'évangile de Matthieu, où on voit cinq femmes apparaître dans cette généalogie. Normalement, c'est tel homme engendre tel homme qui engendre tel homme qui engendre, etc., etc. Et dans cette généalogie, au premier chapitre de l'évangile de Matthieu, il y a cinq femmes. Et ces cinq femmes sont des grains de sable, en fait, parce que on y voit la prostituée de Jéricho, on y voit une femme qui n'est pas juive, hein, qui est la belle-fille de Noémie, Ruth. Voilà, on voit des femmes qui ont eu des vies bizarres, étranges, en dehors des normes de l'époque.
Et pour revenir justement dans l'histoire de Déborah, il y a en fait celle qui va donner la victoire, c'est Yaël. Alors Yaël, c'est une femme, et Déborah avait annoncé que c'est elle qui donnerait la victoire, mais avec un moyen quand même un peu. Disons un peu bizarre, puisqu'elle fait rentrer sous sa tente le chef de guerre ennemi. Bon, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais enfin, il est fatigué, il s'endort, et elle en profite pour lui enfoncer un pieu dans la tête. Ce n'est pas très, très glorieux comme procédé.
C'est pas glorieux, mais de tout temps, les femmes ont dû ruser, en fait. Les femmes ont dû ruser pour obtenir ce qu'elles voulaient, parce que quand on n'a pas voix au chapitre et qu'on n'a pas la force physique, eh ben, il faut utiliser d'autres arguments. Donc, ça donne des histoires, enfin, drôles, entre guillemets, hein, à distance. Voilà. Mais oui, la Bible est pleine de ces histoires où les femmes rusent. Voilà. C'est effectivement preuve qu'elle ne pouvait pas agir autrement.
Elle ne pouvait pas faire autrement, non. Et alors, vous avez parlé des femmes qui suivaient Jésus, donc on va y venir. Alors, il y a d'abord la Samaritaine.
Ah, ça, c'est une de mes préférées. Une de mes préférées parce que finalement, la Samaritaine, alors elle fait de la théologie avec Jésus, hein. Au bord du puits, comme ça, de fil en aiguille, on va sur des sujets essentiels, sur qu'est-ce qui étanche notre soif dans la vie, pas seulement la soif d'eau, mais la soif de vie, la soif de sens, la soif d'être comprise, d'être accueillie, d'être. Et cette Samaritaine, elle laisse sa cruche. Et elle part, une fois qu'elle a compris que Jésus était le Messie annoncé, elle retourne dans sa ville et là, elle prêche. Elle est la première, en fait, apôtre à annoncer cet homme ne serait-il pas le Messie. Et les gens de sa ville vont voir Jésus, parlent avec lui et après lui disent « Ça n'est plus seulement sur tes paroles que nous avons cru, mais nous avons entendu par nous-mêmes. » Et donc, oui. Cette Samaritaine est la première apôtre et la première femme à prêcher. Pour moi, elle légitime la prédication de toutes les femmes.
Et puis, vous parlez aussi de, bon, des femmes au tombeau et vous dites que c'est le début du christianisme, que leur témoignage entraîne, entraîne tout le christianisme.
Oui, il est très curieux que ces récits de la résurrection et de la venue des femmes au tombeau montrent un Christ qui se révèle à des femmes qui vont devenir témoins. Alors qu'à l'époque, dans leur société, des femmes ne pouvaient pas témoigner. Elles ne pouvaient pas témoigner devant un tribunal, elles ne pouvaient pas être témoins de quelque chose. Un témoignage devait être porté par deux hommes, mais en aucun cas les femmes n'avaient le droit de témoigner de quelque chose. Or là, elles sont les témoins, les premières témoins de la résurrection du Christ. C'est très fort,
oui. Je trouve. Oui, c'est un symbole qui est effectivement extrêmement fort. Bon, il y a l'histoire de Marthe et Marie que tout le monde connaît, où Jésus donne raison à celle qui discute, à celle qui est présente, à celle qui se nourrit de la parole, plutôt qu'à celle qui fait le ménage, même s'il n'est pas méchant, entre guillemets, même s'il n'est pas violent vis-à-vis de celle qui fait le ménage, il lui dit quand même quelque part qu'elle ferait mieux de poser son balai et puis d'écouter.
Alors, c'est vrai que ce texte, on le reçoit comme ça, hein, quand on le lit, et il peut être aussi vécu d'une manière très agaçante par toutes les personnes qui s'engagent, parce que le ménage, il faut le faire, parce que le repas, il faut le faire, parce que le voilà. Et donc, les hommes et les femmes qui sont dans l'action et qui sont de ceux qui nourrissent, de ceux qui soignent, de ceux qui, etc., ben voilà, dans le concret du corps et des besoins du corps, tout ça, c'est absolument nécessaire. C'est sans doute Jésus ne veut pas décrédibiliser ou ne veut pas amoindrir ou diminuer ce qu'elle fait, Marthe. Moi, ce qui me touche dans ce texte, et ça, c'est dans les relectures entre guillemets aussi féministes ou féminines, je ne sais pas comment il faut dire, mais avec une attention vraiment sur les verbes, c'est que Jésus dit à Marthe, Marie a choisi. Et en fait, il n'est pas tellement la pointe du texte. Évidemment, Marie a le droit d'être à l'écoute des paroles. Les femmes ont le droit d'être au pied de Jésus. Voilà, ça, c'est clair. Et d'écouter et d'être disciple, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Écouter la parole de Jésus et se mettre à sa suite, c'est être disciple. Donc, femmes comme hommes ont le droit et ont à se mettre au pied de Jésus pour l'écouter. Mais Jésus dit à Marthe, Marie a choisi. Si Marthe avait choisi aussi intérieurement d'être au service de Jésus de cette manière-là, et si elle n'était pas dans la revendication, écartelée entre faire son service à la cuisine nécessaire et puis être au pied de Jésus, voilà, là, elle est écartelée, en fait, elle n'arrive pas à choisir. Et je pense que ce que Jésus lui dit, c'est vraiment de choisir en conscience. Et on peut dire aussi, eh ben, écoutez, tout le monde fait le repas et puis après, on choisit tous d'être au pied de Jésus et de pouvoir tous écouter. Mais voilà, c'est plutôt la conscience de qu'est-ce que je choisis dans ma vie.
Oui, mais ça, c'est une lecture intéressante, effectivement, parce qu'on peut se douter que si Marie avait dit à Jésus « Regarde, ma sœur, elle s'agite », etc., il aurait pu lui répondre la même chose. Elle a choisi d'être à mon service d'une autre façon. Effectivement, cette question du choix, elle est primordiale et c'est intéressant de revenir, de s'appuyer sur les verbes, sur des traductions. Alors, bon, là, on a vu rapidement, parce qu'on ne peut pas parler de tout. C'est comme on n'a pas évoqué l'histoire des cinq filles dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, je préfère dire comme ça, qui ont un problème d'héritage. On n'a pas trop le temps. Je voudrais qu'on passe à l'Église primitive. Dans l'Église primitive, il n'y avait pas beaucoup de femmes.
Alors, voilà, tout dépend aussi quels sont les témoignages que l'on a, c'est-à-dire qu'en fait, rapidement, mais c'est comme au moment de la réforme, il y a une ouverture et rapidement, le fait que la société ne permette pas cette ouverture fait que ben, les témoignages que l'on a, c'est des témoignages d'hommes. Les textes que l'on a sont des textes signés par les hommes. Alors là, j'ai pas lu récemment, il y a un petit livre qui est sorti sur et si Marc était une femme, l'évangéliste Marc était une femme. Je ne l'ai pas lu.
Oui,
Donc
j'en ai
voilà.
entendu parler, j'en ai
Voilà.
entendu parler.
Je ne peux rien en dire parce que j'ai pas eu le temps de le lire, mais voilà, il pourrait y avoir des hypothèses aussi. Mais par exemple, on sait que il y a un fameux Junius évoqué. Dans les lettres de Paul, qui en fait est Junia. Il y a eu une correction parce que ce n'était pas possible que cette femme Junia soit responsable de communauté. Alors on a corrigé un petit peu pour qu'il s'appelle Junius, que ce soit un homme. Donc voilà,
D'accord.
est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui ont été dans la tradition invisibilisées et ben, tout simplement qu'on ait transformé leur nom pour que l'histoire ne garde que des noms d'hommes. C'est tout à fait possible.
Oui, c'est tout à fait possible. Alors, nous allons faire une seconde pause musicale. Cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi le morceau. C'est un morceau de Renaud. Il est daté parce qu'il parle de Margaret Thatcher, mais si on laisse tomber Margaret Thatcher, qui n'est pas l'élément intéressant, il y a de belles choses sur les femmes dites par un homme, et donc j'ai choisi ce morceau que nous allons écouter maintenant.
Qui bien souvent est les mêmes, femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers, issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en fer. Y a pas de gonzesse ou liane, imbécile et meurtrière, y'en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que, une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher. Parce que tu vas pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes oreilles, parce que dans les rangs des chasseurs qui dégomment la tourterelle et occasionnellement les beurs, j'ai jamais vu une femelle. Pas une femme n'est assez minable pour astiquer un revolver et se sentir invulnérable, à part bien sûr Madame Thatcher.
Dans un article au Monde le 1er juin 1994, donc ça remonte déjà à un moment, Claudette Marquet, pasteur, avait dénoncé assez violemment la lettre apostolique du pape Jean-Paul II, qui avait confirmé le refus définitif par l'Église catholique de l'ordination des femmes. Elle avait écrit ceci: « Le Christ dont Jean-Paul II prétend connaître si bien la volonté n'a jamais pratiqué l'exclusion de qui que ce soit, si du moins on se réfère au même texte évangélique. Ça, c'était en 1994. Depuis, il n'y a pas grand-chose qui a changé à ce sujet. Et alors, ne peux pas m'empêcher de me poser la question des relations œcuméniques. Quand un homme protestant rencontre un évêque, bon, ben, ils ne sont pas d'accord là-dessus, mais ça ne va pas plus loin. Mais quand une femme, comme vous, rencontre un responsable œcuménique, enfin, un responsable de quelqu'un qui dit que les femmes ne sont pas capables ou ne sont pas, je ne sais pas trop quoi, parce que, enfin bon, ne peuvent pas exercer les mêmes rôles que les hommes, est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous vous sentez rabaissé? Comment ça se passe?
Alors, en fait, je ne sais pas, je ne garde pas ça en mémoire hein, quand je rencontre nos frères catholiques. Et souvent, les relations se passent de manière tout à fait satisfaisante et on peut discuter, on peut travailler ensemble. Je ne suis pas certaine qu'ils aient ça en tête quand ils me rencontrent. Enfin, je n'ai pas l'impression. Mais finalement, ce que j'ai pu constater, c'est que dans des assemblées où il n'y a pas ou peu de femmes, c'est vrai que j'ai vécu pour la première fois ce que les féministes dénoncent, c'est-à-dire que la parole d'une femme n'a aucun poids. Alors, je ne pense pas que ce soit consciemment parce que le pape a dit ça, mais parce qu'on arrive dans un groupe tout simplement qui inconsciemment met la femme à part.
Il y a des études sociologiques qui ont dit que dans un bureau, dans des relations d'affaires, c'était la même chose.
Oui, oui, oui. Et alors, les premières fois, j'étais très étonnée en me disant, mais j'ai parlé ou pas? Puisque finalement, je pouvais parler, mais ça ne faisait rien. Enfin, ça ne changeait pas. Personne disait, ah bon, oui, d'accord, Emmanuel a dit ça, alors qu'est-ce qu'on en fait? Ah oui, c'est très, très, j'avoue que j'étais très, très, très étonnée. Très, très étonnée. Et j'ai dû mettre en place des stratégies, c'est-à-dire faire en sorte qu'un homme reprenne ce que j'ai dit pour que ce que j'ai dit soit entendu. Donc, c'est des choses que j'ai vécues de manière très… Parce que je n'avais jamais vécu ça avant, dans les relations au sein de l'Église, de l'Église protestante unie, je n'ai jamais vécu ça. Mais dans des rencontres œcuméniques ou interreligieuses, oui, et je pense que c'est complètement inconscient de la part des hommes. Il n'y a pas une volonté de ne pas entendre ce que je dis. C'est complètement inconscient. Et donc, dans ces cas-là, ben, il faut trouver des aides autour et donc des hommes complices pour faire entendre ma parole. Donc, j'ai mis en place un peu la ruse de l'Ancien Testament.
C'est ce que j'étais en train de penser. La ruse, est-ce que c'est comme Yaël qui consiste à faire endormir les hommes et puis à leur planter un pieu dans la tête?
Alors non, heureusement, je ne suis pas du tout violente, donc tout va bien. Mais voilà, oui, j'étais confrontée à ça. Et puis, bon, ben, bien sûr, confrontée aussi dans des rencontres interreligieuses à… Ben, qu'est-ce qu'on fait quand tous les responsables d'église sont assis d'un côté parce qu'ils sont des hommes et que moi, comme femme, je suis assise ailleurs? Oui, bien sûr. Donc, c'est des questions qui se posent, qui sont difficiles à vivre au départ. Et puis, ben voilà, petit à petit, on essaye de faire avec et de briser à la fois le silence et puis sans choquer, mais progresser pour que la parole des femmes soit entendue. Et la mienne, en tout cas, quand je suis en réunion déjà, peut-être un début.
Ça devait être réconfortant de se retrouver ensuite dans les PUDF où les choses sont quand même extrêmement différentes.
Oui, 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 absolument. Et alors, quand j'ai rencontré donc Aïna et Floriane, c'est aussi ça qui les encourageait, c'est-à-dire que de voir tout le chemin qui avait été fait dans le protestantisme, dans certaines églises, et dans l'église réformée de France, l'église évangélique luthérienne, depuis longtemps, hein, depuis les années 1966, 65-66 pour l'église réformée, eh bien, de voir que depuis maintenant 60 ans, ce chemin a été accompli, que des femmes peuvent être pasteurs, que maintenant, je pense pas qu'il serait venu à l'idée de qui que ce soit de dire oh « ben non, on veut pas ce pasteur parce que c'est une femme ». Enfin voilà, il y a tout un chemin qui a été accompli et je pense qu'on ne se pose plus cette question-là. C'est venu. Voilà. Et tout ça, ça a été très encourageant pour Floriane et pour Kaina de dire c'est possible. Dans le judaïsme, alors le judaïsme libéral a des femmes rabbins, hein, et dans l'islam, il y a donc trois communautés, enfin trois femmes imams à Paris depuis peu. Mais il y a un long, long chemin encore à faire. Et en fait, cette ouverture, qui a été faite dans l'Église réformée, l'Église luthérienne, et eh bien maintenant se fait aussi dans les églises évangéliques. C'est-à-dire qu'on a ouvert le chemin aussi pour nos frères et sœurs évangéliques. Et là, maintenant, il y a plusieurs églises qui ont aussi des femmes pasteurs.
Merci beaucoup. Merci Emmanuel de ce témoignage et puis de ce message d'optimisme. Et merci à nos auditeurs. Alors, nous nous retrouverons le 20 décembre et à la même heure. Mais je signale dès maintenant qu'à partir de janvier 2025, il y aura une émission de Thème et Anathème toutes les semaines, toujours le jeudi à la même heure. Alors, il est possible qu'à la fin de certaines émissions qui ont déjà été enregistrées, vous m'entendiez dire « Ah, dans 15 jours », n'en tenez pas compte. C'est bien une émission par semaine à partir de janvier. Alors, n'oubliez pas de réagir, c'est un gros soutien, vos mails, car nous n'avons que ce moyen pour mesurer notre audience. Une seule adresse mail pour toutes nos émissions protestantes, c'est unprotestantpeutencacherunautre@radiofmplus.org, unprotestantpeutencacherunautre, tout attaché, caché ER, @radiofmplus.org. Merci et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.